Mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 24 octobre. Et vous êtes en direct sur Radio Escapade, on espère que ça va durer puisque vous le savez sûrement, il y a des grosses menaces sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le plan de loi finance, donc le budget 2025 qui est en ce moment même en débat. En commission à l'Assemblée nationale notamment, ensuite ça devra repartir au Sénat. J'ai quelques nouvelles à vous donner de ce côté-là, puisqu'un communiqué des locales justement fait état de ce qui s'est dit avant-hier et hier.
En ce qui concerne la presse et les médias, l'État maintient son soutien de 365,7 millions d'euros et préserve les crédits de 26 millions d'euros alloués au pluralisme, ainsi que le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité. Ce fonds de soutien à l'expression radiophonique locale fait quant à lui l'objet d'une baisse de 10 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale de 2024. Vous avez raison, Madame la Présidente, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous en avions parlé lors de notre rencontre. J'ai rencontré les représentants de ce secteur, l'ensemble des représentants, et je me suis engagée à trouver des solutions. Donc on va voir avec le débat parlementaire qu'on nous pouvons avoir, mais ensemble, je pense qu'effectivement, il faut que nous trouvions une solution pour pouvoir évidemment les soutenir. Moi, je tiens à ces radios locales associatives, parce que dans certaines régions, c'est presque le seul accès à la culture. Et j'allais dire, c'est la seule expression culturelle de certains territoires. Et donc, nous y sommes tous très attachés, et donc ensemble, je pense que nous pourrons y trouver une solution.
Voilà, pauvre de vous, hein. Nous sommes votre seul accès à la culture. Ce sont les mots de Rachida Dati, donc, qui étaient entendus dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Donc une prise de position qui a été aussi accompagnée de celle de nombreux députés. Donc les locales, à savoir l'instance qui regroupe les deux grands syndicats des radios libres de France, donc Xenera et SNRL, remercient les députés pour justement l'adoption d'un amendement rectificatif de ce plan de loi finance de 2025 en leur faveur, mais disent rester vigilantes. Donc tout d'abord, effectivement, une félicitation de la part de ces syndicats du vote par la commission des affaires culturelles, et ce contre l'avis d'ailleurs du rapporteur de l'amendement qui porterait à 12 millions d'euros supplémentaires le FSER. Bon, vu qu'ils avaient enlevé 12 millions, c'est un amendement qui le remet juste au niveau où il était en 2024. Si vous suivez, mais c'est comme ça que ça marche quand on veut justement remettre des crédits là où ils étaient prévus d'être coupés. Cet amendement constitue donc un soutien essentiel à la préservation de l'avenir des radios associatives, mais cependant le vote n'est qu'une première étape dans le processus législatif, nous rappelle donc ce communiqué qui a été diffusé hier soir. L'amendement devra en effet être ensuite examiné en séance à l'Assemblée nationale, au Sénat et être adopté dans le texte final du projet de loi finances. Les organisations donc syndicales des radios associatives restent pleinement mobilisées pour défendre ce texte jusqu'à son adoption définitive et donc bien s'assurer que l'enveloppe reste la même que l'année précédente et qu'il n'y a pas cette coupe donc de 10 millions. Mais dans le contexte d'incertitude politique actuelle, notamment avec la possibilité d'un recours à l'article 49.3 de la Constitution pour adopter ce PLF 2025, ils appellent le gouvernement à maintenir et prendre conscience de l'importance d'un tel amendement qui garantit la survie des radios associatives, ce malgré les contraintes budgétaires. Ces échanges en commission ont donné lieu à des discussions autour du contrôle des radios associatives, notamment par l'autorité de régulation, l'ARCOM. Ça, c'était mardi soir, alors que Rachida Dati, vous l'avez entendu, était auditionnée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il est noté que quasiment pas un député, et ce, quel que soit son bord politique, qui ne se soit pas ému ou insurgé contre une mesure qui dénonce pêle-mêle une atteinte à la diversité, les conséquences dévastatrices pour le secteur ou une baisse de crédit ingérable que les collectivités locales ne pourront pas pallier puisque elles-mêmes, de leur côté, s'inquiètent de grosses coupes. Alors la ministre Rachida Dati, ministre de la Culture, vous l'avez entendu, elle était plutôt de bonne volonté, elle aurait pu s'arrêter là, mais rapporte un article de Télérama. Dans son désir manifeste de caresser dans le sens du poil le RN, le Rassemblement National, elle a repris au vol justement une proposition de Philippe Ballard. Celui-ci a été lancé dans une intervention où il expliquait la nécessité pour le monde de la culture de participer à l'effort collectif pour renflouer donc le déficit de l'État. Ce député RN de l'Oise a proposé de faire le tri, le ménage en tout cas dans les radios associatives. Voilà ce qu'il a dit. Dans ce monde, donc des radios associatives, cohabitent des stations tout à fait honorables et nécessitant un soutien, mais aussi d'autres qui peuvent tenir à l'antenne des propos hors du champ républicain. Il serait nécessaire de faire le tri et d'attribuer les subventions sur des critères plus solides. Alors, il n'a pas expliqué d'ailleurs qui aurait la charge de séparer le bon grain de l'ivraie. Et voilà, bon, on dirait qu'il ne sait pas vraiment comment sont attribuées ces subventions. Voilà, donc Rachida Dati a repris sa proposition en se disant favorable hein, de mieux encadrer la distribution de ce budget. Vous avez raison, dit-elle, ces 750 radios ne sont pas toutes de même qualité et de même niveau, et parfois de la même nécessité. Je suis assez favorable à ce qu'on mette des critères de contrôle là-dessus, je vous suis, il n'y a pas de difficulté. Donc drôle de réponse de la part du ministre de la Culture, qu'on ne savait pas à ce point auditrice des radios associatives. Peut-être qu'elle ignore d'ailleurs que tous ces critères existent déjà. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que reprend le communiqué de la CNRA et du SNRL dans leur réaction. Ils disent tenir à affirmer que les radios associatives, du fait justement de ce financement public, sont parmi les médias les plus contrôlés en France, contrairement, on pourrait ajouter, à d'autres qui appartiennent à des chaînes privées. Ces radios sont soumises à des contrôles réguliers par l'ARCOM et par les services du ministère de la Culture. Si une radio associative ne respecte pas ses obligations, elle peut être sanctionnée, comme tout autre, par des mises en demeure, des sanctions financières ou des procédures administratives plus sévères qui pourraient aller jusqu'à la suspension de ses autorisations de diffusion, hein, le non-renouvellement de sa fréquence. Ces radios sont ancrées dans les valeurs républicaines et assurent ainsi une information locale pluraliste en respectant scrupuleusement l'expression des différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses. Loin d'inciter à des comportements violents ou discriminants, elle prône des valeurs de solidarité, de diversité et d'intégration, contribuant ainsi à la cohésion sociale de notre pays. Voilà, vous aurez compris que c'était pas du tout gagné pour ce qui est du budget, comme d'ailleurs pour d'autres coupes bien plus importantes sur les services publics notamment, et d'autres services à la population, qui risquent d'être désastreuses aussi. En tout cas, pour ce qui est des radios associatives, on voit au moins qui prend position, qui ne le prend pas, et comment. On reste dans cette thématique des discussions, des débats autour du budget 2025, avec un article de Reporter qui s'intéresse... qui s'inquiète même de l'avenir de la forêt et qui nous parle de cette alliance de députés de gauche et de droite, une alliance pour préserver justement ces forêts. L'urgence de préserver les forêts et de faire bifurquer, comme on dit maintenant, la politique française en la matière rassemble donc, semble-t-il, au-delà des clivages partisans, puisque ce 22 octobre, ce mardi à l'Assemblée nationale, alors que les députés s'écharpaient sur ce PLF 2025, 5 députés issus des écologistes, de Renaissance, de Horizon, du PS et de la France Insoumise se sont réunis autour d'une association, l'association Canopée, et ils proposent un virage à 180 degrés du plan forêt, ce plan qui est très cher à Emmanuel Macron. Ils ont annoncé ainsi leur intention de déposer des amendements pour réorienter pour le budget qui arrive les 195 millions d'euros qui sont prévus dans ce plan forêt vers des mesures d'urgence. Et ce, disent-ils donc, sans engager un euro en plus, ils proposent juste de dépenser différemment cet argent. L'argent, pour l'instant, il est dédié à un plan de restauration qui favorise malheureusement les coupes rases, cette pratique qui détruit totalement le tissu forestier et qui est particulièrement néfaste à la biodiversité. Ainsi, 87% des projets de plantation d'aujourd'hui sont précédés par une coupe rase, explique notamment l'association Canopée dans un rapport sur le volet forestier du plan relance qui a été paru il y a 2 ans. Si vous savez, le fameux milliard d'arbres que le président de la République souhaitait planter. Un beau slogan, selon eux, mais inefficace, dangereux et coûteux, s'il est précédé effectivement par la coupe d'autres arbres. C'est Sylvain Angerand qui résume cela. Il est coordinateur des campagnes, justement, pour Canopée. Ce constat est déjà ancien, mais il est de plus en plus largement partagé. Ainsi, le département de la Corrèze, qui est dirigé par les Républicains, vient de décider une limitation des coupes rases dans le cadre de son plan départemental de la gestion de l'eau. Car oui, la gestion de l'eau est très intimement liée à celle des forêts. C'est ce que explique Étienne Roger, qui est expert forestier et membre de l'association Pro Silva France, qui était invité comme témoin par Canopée. Il décide donc la Corrèze avec les Républicains à leur tête, qui ne sont pas spécialement écologistes à la base. Face donc à la stratégie du gouvernement, une coalition associative et politique propose notamment trois mesures pour mettre la politique française des forêts au diapason de l'urgence climatique. En tout premier lieu, sauver la prévention incendie, puisqu'actuellement le gouvernement prévoit une suppression des crédits dédiés aux actions de prévention des feux de forêt en 2025. Cela deux ans après un été qui a été très marqué par la destruction de 60 000 hectares de forêt française au cours des incendies. Une mesure qui est donc accueillie avec ce qu'on peut appeler de la consternation. En deux, soutenir une filière de sylviculture qui soit durable, puisque les crédits du plan forêt qui sont réaffectés pourraient, selon eux, servir à baisser les impôts sur certaines activités de sylviculture écologique et donc la favoriser. Pour eux, il faut prendre le virage d'une sylviculture mélangée à couvert continu. Les prélèvements dosés, qui consistent à couper un arbre sur cinq, par exemple, pour laisser les autres grandir, à la place de faire des coupes rases, permettraient de trouver le bon compromis entre régénération naturelle et maximisation de la production de bois. La sylviculture douce, comme on pourrait la résumer, elle est ainsi pour eux 10 fois moins coûteuse que le schéma qui repose sur les coupes rases et les plantations dites en plein, en gros la monoculture d'arbres. Le problème, c'est qu'en sylviculture, on se projette sur un horizon de 150 ans, regrette Patrice Martin, et ça empêche donc de voir des fois les retombées de certaines prises de décision actuelles. Cette coalition de députés et d'associations souhaite également flécher, je vous le disais, les aides vers les scieries qui sont capables de transformer les feuillus, afin que la filière française de bois soit alignée sur la diversité des forêts présentes sur le territoire. Une diversité et cette variété des essences est vitale à la biodiversité et à la lutte contre les effets du changement climatique. Le nombre de scieries en France a chuté de 15 000 à 1500 entre 1960 et aujourd'hui, souligné d'ailleurs un député MoDem du Haut-Rhin, Hubert Haute. Les crédits qui seraient réaffectés pourraient ainsi également financer des machines moins destructrices pour le sol, voire même des interventions à cheval, ou aider à tracer des cloisonnements entre les parcelles forestières pour permettre la circulation des engins et limiter leurs dégâts sur les sols. Voilà pour ce qui est de la sylviculture douce. Et la troisième mesure d'urgence que souhaite cette coalition de députés, eh bien c'est tout simplement remplumer l'ONF, l'Office National des Forêts, un service public vital qui a déjà été amputé de 40% de ses effectifs en 25 ans et qui est normalement supposé perdre encore 95 agents pour l'année prochaine. Le plan donc proposé par Canopée prévoit d'inverser cette tendance en recrutant 478 agents. On a perdu notre capacité opérationnelle, regrette le député Patrice Martin. Non, pardon, lui, il est membre d'une association. Je l'ai perdu, c'est sur la feuille d'avant. Patrice Martin, bon, je vous dirai après qui c'est. J'ai perdu son nom. En tout cas, il explique qu'avec le changement climatique, nous avons besoin d'une gestion et d'une observation beaucoup plus fine des peuplements. Les schémas sont totalement remis en cause avec donc les nouvelles données du changement climatique. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a souligné également dans un rapport daté du 24 septembre qui attire l'attention sur la nécessité de recruter au statut de fonctionnaire, le seul statut qui offre aux agents le permis de port d'armes, par exemple, et des pouvoirs de police, et donc une possibilité d'action sur le terrain. Voilà, cette alliance transpartisane donc autour de l'association Canopée se fera peut-être au long cours, avec les 5 députés qui étaient présents ce mardi, qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble, dans le cadre de la commission développement durable de l'Assemblée, mais également de la mission d'information sur l'adaptation au changement climatique de la politique forestière. Ces deux organisations contenaient déjà une partie des propositions qu'ils ont faites ce mardi dans le cadre du budget 2025. Sur une année d'ailleurs, 2 projets de loi transpartisans ont d'ailleurs été déposés dans la même optique. Les amendements qui ont été faits ce mardi doivent désormais être déposés pour ensuite être examinés avec le volet dépenses du PLF. Ça se fera seulement à partir du 8 novembre. Mais le consensus apparent entre eux n'écarte en tout cas pas le risque qu'il soit rejeté, tout simplement. C'est notamment Anne-Cécile Violent, une députée Horizon de Haute-Savoie, qui explique qu'ils ont une liberté de parole, mais qu'ils n'engagent pas la totalité de leurs groupes respectifs. Notamment la menace du 49-3, toujours, pourrait envoyer tout le travail parlementaire à la corbeille. Cela pèse aussi sur les discussions. En tout cas, ce temps de débat budgétaire doit permettre à l'association Canopée d'essayer de convaincre l'exécutif du fondement de ses arguments. Et par exemple, l'an dernier, plusieurs des amendements qu'ils ont déposés ont été conservés par le gouvernement après le 49-3. Donc 49-3, ça ne signifie pas non plus que tout part à la poubelle. Petite touche d'espoir de Bruno Doucet de Canopée, qui rejoint aussi la discussion précédente sur les radios associatives d'ailleurs. Les forêts sont notre assurance vie et elles vont mal, explique Marie Pochon, une députée écologiste de la Drôme, qui regrette la disparition au sein du gouvernement Barnier du secrétariat d'État à la biodiversité. C'est un sujet dont nous ne mesurons pas forcément l'importance. L'effondrement de la biodiversité, qu'on peut assimiler à une extinction de masse, une extinction de végétaux notamment, se passe en ce moment et les forêts y jouent un rôle essentiel, un rôle évidemment aussi à mettre en regard avec tout le cycle de l'eau, que ça soit du côté de la sécheresse ou des inondations catastrophiques qui ont fait les gros titres de l'actualité il y a peu de temps.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Un petit tour des brèves dans le monde, des brèves assez guerrières, puisque déjà c'est en Turquie que la Turquie a désigné et frappé le PKK après un attentat qui a fait 5 morts et 22 blessés, près de la capitale Ankara. Les autorités turques ont en effet désigné le Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK, comme probable responsable de cet attentat qui a causé, je vous le disais, 5 morts et plus de 20 blessés hier près d'Ankara. Et le gouvernement turc a mené en représailles des frappes donc contre des positions du PKK en Irak et en Syrie. La manière dont cette action a été menée est très probablement liée au PKK, hein, expliquait le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya le soir de l'attaque qui avait visé le siège des industries de défense de la Turquie. Selon lui, les deux membres du commando ont été tués. Et pour le ministre de la Défense Yaşar Güler, il prévenait de son côté donc que la Turquie infligeait toujours à ces scélérats du PKK le châtiment qu'ils méritent. Nous ne renoncerons pas à les poursuivre jusqu'à ce que le dernier terroriste soit éliminé et nous les ferons souffrir pour ce qu'ils ont fait, insiste-t-il. Voilà, on est un peu dans une rhétorique guerrière, vous en conviendrez. Peu après minuit, le ministère avait annoncé avoir frappé 32 cibles du PKK et de ses alliés dans le nord de l'Irak et de la Syrie, et il assure avoir agi en défense, et ce conformément à la Charte des Nations Unies, en expliquant dans son communiqué qu'un total de 32 cibles appartenant aux terroristes ont été détruites avec succès, et il a précisé que les opérations aériennes se poursuivaient. Du côté du ministère de la Justice turc, on a annoncé ouvrir une enquête. Le processus d'identification et la recherche d'empreintes digitales se poursuivent pour dire quelle organisation terroriste est à l'origine de l'attentat. Si vous l'aurez compris, la réponse sur le terrain a déjà eu lieu. Le vice-président turc, Cevdet Yılmaz, qui a rendu visite aux blessés en soirée avec plusieurs membres du gouvernement, a expliqué qu'une des personnes qui était morte, en plus des 4 employés du site, était un chauffeur de taxi dont le commando avait braqué la voiture avant l'attentat et que 7 des blessés étaient, eux, des policiers. Cette opération s'est déroulée en milieu d'après-midi à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Ankara et n'avait pas été revendiquée, en tout cas jusqu'au milieu de la nuit dernière. Intenses bombardements aériens israéliens ont, eux, touché hier soir la banlieue sud de Beyrouth au Liban, un fief présumé du Hezbollah, donc visé par 17 frappes qui ont détruit plusieurs immeubles selon l'agence libanaise et provoqué une énorme explosion. C'est l'agence officielle syrienne Sana qui, de son côté, faisait état ce matin d'une frappe israélienne sur un immeuble d'habitation du quartier de Kafr Souza à Damas, et l'Observatoire syrien des droits de l'homme et une ONG évoquaient des pertes humaines. Quelques heures plus tôt, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, qui est en tournée au Proche-Orient, appelait Israël en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza et contre le Hezbollah au Liban à éviter une escalade avec l'Iran, l'Iran qui soutient les deux mouvements islamistes précédemment cités. Du côté de l'agence libanaise ANI, on annonçait donc hier soir que les 17 frappes israéliennes au moins avaient touché donc la banlieue sud de Beyrouth, après un appel à évacuer plusieurs secteurs qui avaient été lancés par Israël aux habitants. Les images sont visibles sur notamment le site de l'AFP, sur les chaînes d'info. Elles montrent une énorme explosion, suivie de plus petites dans ce secteur. 6 immeubles ont été détruits, selon l'agence libanaise, dans le seul quartier de Laylaki, tandis que la chaîne pro-iranienne Al-Mayadeen affirmait qu'un de ses bureaux, situé dans le quartier sud de Beyrouth, avait aussi été touché. Et en revanche, il n'y a pas eu d'avertissement de la part d'Israël pour cette frappe qui a touché le quartier de Jna, dans le sud de la capitale de Beyrouth. Cette frappe qui a tué une personne et en a blessé 5 autres, selon le ministère libanais de la Santé. Le matin même, Israël avait aussi bombardé Tyr dans le sud du Liban, ce qui a poussé à fuir une partie des habitants de cette ville côtière, une ancienne cité phénicienne et romaine, au riche patrimoine archéologique qui en a pris un petit coup aussi. Les rues ont été dévastées. La visite de du chef de la diplomatie américaine, M. Blinken, dans la région, c'est la 11e déjà depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, enfin depuis un an. Elle s'est propagée en septembre au Liban, vous le savez, alors que toutes les tentatives de médiation internationale en vue d'un cessez-le-feu ont échoué. Celui-ci a jugé mercredi que le moment était venu de mettre la fin à la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Ce sont les mots donc par la voix du représentant américain. Selon lui, Israël a atteint la plupart de ses objectifs stratégiques dans le territoire palestinien, avec l'idée de s'assurer que le 7 octobre ne peut plus jamais arriver. Après cette attaque, Israël avait promis, donc après le 7 octobre, Israël avait promis de détruire le Hamas, qui est au pouvoir selon eux à Gaza depuis 2007. Et mardi, le secrétaire d'État avait donc estimé que la mort justement de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, tué par des soldats israéliens le 16 octobre dernier, offrait là une occasion importante de ramener chez eux les otages retenus à Gaza et de mettre fin à la guerre. Et bien malgré tout ça, une source de sécurité a affirmé hier que l'armée israélienne était de son côté prête pour encore des mois de combat à Gaza et au Liban. Israël ne mène pas une guerre contre Gaza, ni une autre guerre contre le Liban, mais une guerre contre l'Iran, parfois directement, parfois indirectement, via les alliés de l'Iran, expliquait encore cette source. Anthony Blinken estime, lui, très important qu'Israël réponde d'une façon qui ne crée pas une plus grande escalade, alors que l'Iran se dit déterminé à riposter en cas d'attaque israélienne après le tir de 200 missiles iraniens contre son territoire le 1er octobre. Voilà, on va terminer ces nouvelles du monde avec un petit appel à l'aide dans le cadre de copinage entre les médias indépendants, à savoir CQFD, le meilleur mensuel de critique sociale et d'expérimentation sociale, pardon, que ça soit à l'international, mais très ancré sur le territoire marseillais. Il nous explique dans cet appel que puisque ni Rodolphe Sadé, ni Vincent Bolloré, ni même Xavier Niel n'ont daigné racheter CQFD, notre petit canard maigrelet, est forcé de rester indépendant, libre et impertinent. Pour continuer à exister, il a donc besoin de vous. Et donc voilà, ils expliquent qu'ils sont au bord du gouffre et que ce n'est pas comme s'ils faisaient des folies puisqu'ils salarient seulement quelques postes clés de ce journal et que la grande majorité du travail reste bénévole. Ils n'en sont quand même pas loin du dépôt de Bulin et du coup, je vous invite à devenir mécène, notamment tout simplement en vous abonnant et les prix sont plus que correct. Vous pouvez aussi, puisque c'est bientôt les fêtes, abonner vos proches si vous le souhaitez, ou aller démarcher vos kiosques à journaux pour qu'ils les prennent en stock. Bref, allez sur la page du site journal CQFD, vous pourrez y lire notamment de très nombreuses analyses sur ce qui se passe en France ou dans le monde, et puis peut-être si vous êtes vous-même possesseur de quelques dizaines d'euros, bah, participez à l'aventure.
Audi, Panem, Quid, Meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Et c'est là-dessus que l'on se quitte, chers amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiquer. Les Nouvelles du Monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international. Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.